Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains section Nantes, autrement dit de la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, au croisement de la rue de Coulmiers et de la rue d'Allonville. Une vraie pépite de bar à boire, à manger et à vivre. C'est ici que nous enregistrerons et que nous avons enregistré tous les mois la chronique de la LDH Nantes. En continuant notre cycle sur la paix, débuté le mois dernier avec la Palestine, nous allons cette fois-ci parler de l'Ukraine. Et pour en parler le mieux possible, nous avons avec nous Natalia. Bonjour Natalia.
Bonjour.
François. Bonjour François.
Bonjour.
Mais aussi Fabienne, Nathalène et Nathalie. Comme d'habitude, nous allons commencer par faire un tour des groupes de travail de section.
Alors, que va-t-il se passer dans les jours et semaines à venir dans cette dynamique section de la LDH Nantes ? Alors, tout d'abord, permanence d'accès aux droits. Le 11 février et 25 février, de 18h à 19h, au local de la LDH, place de la Manufacture. Ensuite, le groupe de travail numérique et liberté organise une réunion débat le 6 février à 20h, toujours à la Manufacture. Et la section a le plaisir d'annoncer la création d'un nouveau groupe de travail, droit et environnement.
François co-anime un collectif en solidarité avec l'Ukraine et Natalia co-administre Volia. Pouvez-vous nous dire ce que font vos associations ? Quelles en sont les actions ? Natalia.
Merci. L'association Volia, en ukrainienne, Volia, ça veut dire liberté et volonté. C'est déjà dans notre ADN. Se concentre surtout sur trois piliers d'action. C'est aide humanitaire, principalement. C'est pour ça qu'on a été créé. Inclusion des déplacés d'Ukraine. Vraie inclusion dans les sociétés, dans les temps dont ils ont besoin ici. Et sensibilisation, c'est ce qu'on va faire ce soir.
Pour le collectif, je dirais simplement que son départ, c'est le 24 février 2022. C'est l'invasion générale de l'Ukraine par les troupes russes. Et c'est le sentiment que face à une situation que personne ne pensait capable, eh bien, la voix des citoyens doit se faire entendre. Et la voix des citoyens, c'est en coordonnant les forces des associations, des syndicats, des mouvements politiques qui le veulent, qu'on a essayé d'accompagner la résistance du peuple ukrainien.
Merci François. Est-ce qu'il serait possible de nous faire un rappel historique ?
Les sentiments généraux, c'était qu'on ne pensait pas que Poutine va vraiment le faire et il va vraiment envahir. Même si on avait déjà... on était déjà dans la situation de la guerre qui a réussi à commencer en annexant Crimée illégalement en 2014. Donc, effectivement, on dit en fait c'est l'invasion à grande échelle depuis le 24 février 2022, mais c'est la guerre qui est déclenchée tout de même par la Russie depuis avril 2014. Donc, c'est l'annexation des Crimées qui a été suivie par soutien des mouvements séparatistes en Donbass et notamment Donetsk et Lugansk, pas le territoire entier. Ça réveillait aussi beaucoup de choses dans la mémoire des Ukrainiens. Notamment, il faut parler de Holodomor également, qui est aujourd'hui reconnu en tant que génocide du peuple ukrainien par la France. La France a reconnu en 2023 et le Parlement européen a reconnu en 2022 officiellement que Holodomor, c'est le génocide par les famines artificielles qui a été créé, orchestré par Staline en 1932-1933. Il y avait trois vagues différentes, mais l'échelle la plus grande, c'était 1932-1933. Et les territoires, c'était quasiment tout le territoire de l'Ukraine qui a souffert. Et surtout de la population ukrainophone qui était juste détruite dans le néant par la famine qui ne devrait pas être là. Pendant que la graine était vendue en Europe, aux États-Unis, pour investir dans l'économie de l'Union soviétique. En fait, on dit malheureusement, c'est vraiment malheureusement, qu'il n'y a pas une seule génération des Ukrainiens qui n'ont pas subi quelque chose grave qui vient du régime de Moscou.
On va effectivement, cette année, le 24 février, ce sera le troisième anniversaire malheureux de l'invasion par les troupes russes de l'Ukraine. On peut peut-être commencer par un point sur la situation plus générale, plus militaire, François.
La situation de l'Ukraine est extrêmement difficile. L'Ukraine est un grand pays au niveau surface. L'Ukraine a une surface plus importante que la France, mais une population plus faible. Aujourd'hui, peut-être 41, 42 millions, parce qu'il y a beaucoup de personnes ont quitté le pays. Mais surtout, ces trois années de guerre ont mis le pays pas à genoux, parce que c'est un pays qui résiste. C'est ça la première chose à dire, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Enfin, on est actuellement en hiver, les populations sont, les températures sont extrêmement froides. On voit tous les jours l'armée russe essayer de détruire tout ce qui est électrique, tout ce qui est chauffage, et contraindre les populations à vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, un des paradoxes, c'est que tout ça qui rend la vie impossible, mais en même temps consolide la résistance. C'est-à-dire, on a le sentiment que c'est même une surprise. On pourrait penser que ce peuple va dire arrêter, etc. Loin de moi de dire que ça n'existe pas chez certaines personnes, mais la majorité aujourd'hui de la population ukrainienne considère qu'elle doit continuer le combat pour la liberté. Alors après, évidemment, un point important, c'est que plus de 20% du territoire... Nathalie en parlait tout à l'heure, les régions de l'Est sont occupées par les troupes russes. Aujourd'hui, le président Zelensky disait 20,3 ou 20,4%, donc c'est beaucoup, c'est une part de la population importante. Et surtout dans cette zone occupée par la Russie, il se passe des choses invraisemblables sur lesquelles il n'y a pas d'information. C'est aussi un point dont peut-être tu vas parler, Nathalie.
Effectivement, on peut peut-être parler du processus de russification. Je pense aux écoles, je pense aux enlèvements d'enfants. Natalia.
En effet, c'est vraiment la guerre dans tous les sens du mot. Et c'est la guerre contre l'identité ukrainienne. C'est vraiment pour faire en sorte que l'État ukrainien, la culture ukrainienne, l'identité ukrainienne, la langue ukrainienne, ça n'existe pas. Ce qui se passe surtout, c'est dur d'en parler. Je suis désolée. On a fait aussi la manifestation pour les enfants. C'était pareil. En fait, normalement, je fais des longs discours et je peux parler longtemps, mais c'est le sujet. En fait, c'est dur quand j'en parle vraiment. Selon des estimations officielles, il y a environ 20 000 enfants qui étaient enlevés par la Russie, dans le sens où les enfants sont enlevés de leur famille, leurs documents ukrainiens sont détruits, on leur donne une nouvelle identité, un nouvel nom, prénom, maintenant t'es russe, et puis si c'était un garçon, on va t'élever dans l'idéologie, après te donner une arme, et te renvoyer vers les fronts et combattre ta famille.
Il y a, si tu me permets, Natalia, il y a quelques jours a été dénoncé le scandale de Mariupol. Mariupol, on l'a tous en tête, parce que c'était cette grande ville qui a été totalement détruite par la Russie, qui aujourd'hui est sous contrôle russe. Et il y a une campagne par rapport aux enfants de russification. Et cette russification, elle se fait non seulement à la glorification du dictateur qu'est Poutine, mais à la glorification du général qui a commandé la destruction de la ville, qui depuis est mort, et avec des grands portraits. Et les enfants, on leur apprend que c'était leur libérateur. C'est-à-dire que les mots sous la dictature de Poutine n'ont plus de sens. Le bien devient mal, et effectivement, ce qu'a dit Natalia me semble fondamental, c'est le refus de toute identité ukrainienne. Il faut détruire l'identité ukrainienne.
Donc ça passe par l'éducation, bien évidemment, et puis une révision des programmes d'histoire en particulier.
Oui, Ben, c'est ce qui est, en fait, c'est déjà ce que l'Union soviétique a fait avec l'histoire de l'Ukraine. Il n'y a pas que l'Union soviétique, c'était bien avant. L'Empire de Moscou, il s'appropriait même le nom des Kiev Russes, qui était, et Ruthénie, c'est les premiers noms de l'Ukraine. Et ils sont transformés pour dire, ben, en fait, votre histoire nous appartient. Pour parler d'éducation, je voulais aussi dire, mais il y a toujours pourquoi on résiste, parce qu'on croit en liberté, on croit en démocratie, et on a de l'espoir. C'est pour ça que Poutine n'a pas pu gagner en 3 jours, parce que c'est pour ça que les images que vous avez vues quand les gens dans les villages et se mettaient avec sans rien, avec des mains, juste des mains pour arrêter les tanks. Et à Kharkiv aujourd'hui, donc on reçoit les images des enfants qui ils ont arrangé les classes des écoles dans les sous-sols, dans des métros. Il y a toutes les écoles qui ont passé des écoles souterraines pour continuer l'éducation et pour continuer. C'est ça la vraie bataille, vraiment.
J'ai vu également qu'à Kharkiv, il y avait encore l'opéra, des danseurs qui se mobilisent, qui dansent dans des sous-sols et qui maintiennent de cette façon-là, qui résistent aussi.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il en est de l'aide internationale, tant humanitaire que militaire ? François, tu veux commencer ?
Bon, l'aide internationale est importante parce que cette question de face à la question de la guerre et de la paix, on n'est pas observateur. Si on veut se battre pour le droit de l'Ukraine à vivre les choix que ce pays fera, que ses habitants feront, on doit défendre l'Ukraine. C'est pas une guerre qui ne nous concerne pas. On est concerné. Alors, il y a différentes aides. L'aide dont je veux parler n'est pas la plus importante. La plus importante, on imagine bien, c'est une aide militaire. Hein. La Russie est un pays extrêmement militarisé, un pays de 250 millions d'habitants contre un pays de 40 millions d'habitants. Ça veut dire que, et on le voit militairement, c'est-à-dire les états d'âme de Poutine, il n'en a pas. Hein. Il peut faire liquider des dizaines de milliers de jeunes Russes qui tombent, mais après, il y en a encore derrière qui arrivent. Hein, voilà, c'est dire, voilà, on va étouffer, on va gagner cette guerre comme ça. Donc l'aide militaire, elle est essentielle. On a vu que dès le départ, le choix de Poutine a été de dire, on va détruire toute possibilité d'utiliser l'avion en Ukraine. Hein. On bombarde les aéroports, on détruit la flotte, etc. Donc il n'y aura pas d'aviation et donc on aura moins de risques. Hein. Et puis après, on a vu une guerre qui a pris une forme qu'on ne connaissait pas, hein, qui est cette guerre moderne avec des drones, etc., etc., enfin un matériel électronique de pointe. Donc effectivement, cette aide, elle existe. Mais après, il n'y a pas que cette aide. Il y a aussi une aide humanitaire. Alors, il est intéressant de savoir qu'en France, une aide qui est importante, mais dont on parle assez peu, c'est l'aide de tous les syndicats français. Hein, tous les syndicats français, mais tous, hein, les 6-7 grands syndicats français, conduisent régulièrement des convois syndicaux en Ukraine parce qu'ils avaient déjà des contacts avec les syndicats ukrainiens. Hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Bon, par exemple, des contacts avec les syndicats russes ou biélorusses, c'est impossible, puisqu'on a vraiment un régime dictatorial où les syndicats sont affiliés au parti dominant ou à l'État. Ce n'est pas du tout le cas de l'Ukraine, où on a un pluralisme syndical. Et donc, ces contacts directs font qu'il y a aussi ce travail de solidarité. Et puis, il y a un travail, mais là, Natalia le connaît beaucoup mieux que moi. Hélas, des milliers d'Ukrainiens ont dû quitter leur pays, ont dû trouver refuge momentanément, hein, notamment des femmes et des enfants. Quelques-uns, finalement très peu, hein, mais quelques-uns sont venus en France et ils contribuent à aider à développer un travail de solidarité humanitaire, hein, de collecte, etc., et les envoyer en Ukraine. Et ça, c'est effectivement très important, pas tant par la quantité qui a été emmenée, mais par le fait qu'ils ne sont pas seuls. Hein. Il est important pour résister de savoir qu'il y a le front, mais il y a aussi un arrière-front. Et la solidarité internationale, ça doit être l'arrière-front.
Merci. Merci, François. Effectivement, l'Ukraine, aujourd'hui, c'est un bouclier de l'Europe, c'est ce qu'on dit. Et c'est vraiment ça aussi, parce que là, entre Poutine, il était aussi très clair en annonçant l'invasion à grande échelle, juste avant ça, que l'existence même de l'Union européenne, ça, c'est une menace pour la sécurité et pour un État russe. Donc, c'est vraiment la guerre des impérialismes, dictatures contre la démocratie. Nous sommes, les Ukrainiens sont sur les fronts, mais on ne pourrait pas résister toute seule. Il faut être aussi très clair et honnête sur ces points. Et on est vraiment très reconnaissant à tous nos partenaires, toutes les démocraties qui soutiennent l'Ukraine et continuent l'aide qui est essentielle, l'aide militaire, parce qu'encore une fois, l'Ukraine, ce n'est pas du tout le pays militarisé. On est, avec le mémorandum de Budapest, on a rendu nos armes nucléaires en 1994 contre les garanties de sécurité, souveraineté et protection co-signées par Russie, les États-Unis et Angleterre à l'époque. Et après, c'était vu et confirmé par tous les pays à l'ONU. Donc, déjà, on n'avait pas une très grande armée avant 2014. C'était même pas comme s'il y avait quelques vingtaines de milliers de soldats. Et là, aujourd'hui, on investit beaucoup dans les centres de défense. Et vraiment, on appuie sur les mots défense parce qu'il faut toujours se souvenir, on dit guerre ukraino-russe, mais on est les défendeurs dans cette guerre. On ne veut pas, et si c'était notre volonté, la volonté de tous nos partenaires démocratiques, la guerre aurait été arrêtée demain. Parce que nous, on n'a pas envie que ça continue. Néanmoins, on a besoin de continuation des aides, surtout pour la défense, et aussi humanitaire, parce qu'avec quelques coupures là aujourd'hui, ça devient vraiment indispensable. Donc, tout et chacun, cette solidarité, l'élan de solidarité internationale, très important et précieux. Et surtout, le soutien total de l'Union européenne à l'Ukraine a déjà atteint les 134 milliards d'euros. Et c'est 50 milliards d'euros, de ça, c'est consacré au armement pour la défense. Et le reste, c'est l'aide humanitaire. Donc c'est, et surtout médicale, parce que c'est ce qui a dit François tout à l'heure. On est face à géants avec des ressources énormes, l'argent qui provient d'industries des gaz énergétiques qui vise nos civils au quotidien. Et aujourd'hui également, on invite les autres dictateurs dans cette guerre et l'internationalise et fait l'escalation. Donc sans nos partenaires qui se battent également pour la démocratie, l'Ukraine tombera. Donc, voilà.
Люди тополі в полі хитаються, люди без полі в нори ховаються, люди каштани впадуть, розсипаються, люди титани в серцях залишаються.
Natalia, on vient d'entendre une très belle chanson. Est-ce que tu peux un peu la décrypter pour nous, nous expliquer de quoi elle parle ?
C'est vraiment l'ode à l'humanité, à tous les humains qui vivent et dont de l'aide l'un à l'autre et qui se soutient. Et que c'est grâce aux humains comme ça qu'on arrive à avancer.
Ode à l'humanité, alors.
C'est ça.
Alors faisons un point maintenant sur l'accueil des Ukrainiens dans notre département, en Loire-Atlantique. Alors peut-être la question qui nous vient à l'esprit, c'est comment vont-ils, comment vont-elles ?
L'accueil, bah, déjà, merci beaucoup pour l'accueil. C'était vraiment bien organisé tout au début. Nous, avec tous nos bénévoles, on s'est rencontrés à la Maison de l'Europe où il y avait, c'est le premier endroit des collectes des aides humanitaires et où tous les bénévoles locaux pouvaient se rencontrer avec également des personnes comme moi, des migrants ukrainiens. Voilà, donc on a pu justement bâtir cette connexion humaine. Et puis, la ville de Nantes également a contribué énormément à l'accueil avec la Croix-Rouge française, plusieurs associations. Il y avait un endroit qui était construit à la manufacture, justement, juste à côté. Je connais bien cet endroit. J'étais à ce moment bénévole. Je faisais des traductions à la préfecture, à la manufacture et partout. Donc, on a pu vraiment voir cet énorme élan de solidarité qui s'est passé en 2022.
Il y a bien sûr eu des dispositifs d'accueil, pas seulement à Nantes, il me semble. Il y en a un petit peu partout dans le département.
C'était partout. En fait, il y avait beaucoup des phases, des changements. Au début, c'était tout un chaos parce que même la protection temporaire s'était déclenchée par l'Union européenne. C'était utilisé pour la première fois. Il était conçu pendant la guerre en Yougoslavie, en espérant qu'on n'aura pas la nécessité d'utiliser ça en Europe. Malheureusement, on y est arrivé. Donc, il y a des termes légaux qui sont différents et protection temporaire. On a fait au début, on nous a dit qu'on peut pas dire réfugié ukrainien, et c'est le terme déplacé d'Ukraine parce que c'est temporairement déplacé, et en France c'est chaque 6 mois que ça s'est reconduit, c'est protection temporaire. Donc il y a bien une différence dans les termes qui sont utilisés, et que nous on était aussi dans les réunions avec la préfecture Loire-Atlantique qui nous a expliqué en fait il faut dire ça, donc on suit depuis. Et pareil au niveau national, il y avait une cellule des crises qui était le comité de coordination nationale qui était créé avec toutes les associations, l'ambassade, le ministère de l'Intérieur français, avec le préfet Monsieur Zimet, qui expliquait aussi qu'est-ce qui va se passer sur le territoire pour mieux coordonner également. Donc, je participais notamment dans ça. Donc, c'était des efforts qui ont mis toutes les institutions en France, en Europe, pour accueillir les Ukrainiens, ont montré qu'il y a cette capacité, on peut le faire. En fait, c'est possible. Il y a beaucoup aussi de réseau des Croix-Rouge françaises qui a travaillé justement pour... la plupart des Ukrainiens ne savaient pas du tout où ils vont. Ils sont arrivés sur Paris et après, c'était la redistribution dans la région selon des chiffres des préfectures, donc des capacités d'accueil. Donc là, c'était le début.
Je pense que ce qu'a dit Natalia est très important, c'est-à-dire elle parle du statut qui était d'accueil temporaire, hein, qui a été donné. Et donc l'accueil temporaire, on voit qu'il n'est plus temporaire, hein, puisque ça fait 3 ans. Mais à ce moment-là, il devient limitatif. C'est-à-dire aujourd'hui, ces personnes ne vont pas bien. Elles vont pas bien parce que l'Ukraine ne va pas bien, parce que ce sont des familles déchirées, parce que ce sont des familles divisées. Hein. Et donc, c'est pas simple de vivre comme ça, hein, parce que des enfants peuvent s'intégrer très rapidement et des parents vivre en sachant que leurs propres parents sont en Ukraine, que leur mari peut être en Ukraine, que leur compagnon peut être en Ukraine. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre. Et aujourd'hui, il y a une grande inquiétude parce qu'on voit bien que, par exemple, le gouvernement français trouve que ça lui coûte un peu cher, même si on peut penser que les conditions ne sont pas extraordinaires, hein, et qu'il y a tendance à dire qu'il va falloir rentrer dans le droit commun. Mais le droit commun, c'est quoi ? hein, c'est quoi pour pouvoir avoir un logement quand on est à Nantes, pour avoir un travail, hein, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans pour permettre à ces personnes d'acquérir le français, hein, donc on est dans une situation assez compliquée, hein, et je pense que toutes les associations françaises sont plutôt inquiètes de la situation.
Ce qui pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Ukraine et la population ukrainienne ici ou là-bas ?
Je pense que la première chose, Nathalie va dire des réponses très concrètes, mais la première chose, c'est de ne pas accepter ce qui est en train de se passer. On ne peut pas s'habituer à cette guerre, on ne peut pas s'habituer à cette guerre impérialiste, cette guerre qui vise à nier l'existence d'un pays libre et d'un peuple libre. Et donc on doit tout faire pour arrêter cette guerre et permettre que l'Ukraine retrouve... une vie qui ne va pas être normale tout de suite, parce qu'on voit bien les dégâts que le pays a connus, mais qu'elle puisse redevenir un pays qui va déterminer librement son chemin. Je crois que c'est ça qui est le plus important.
On a besoin de l'aide concrète. C'est aider. Vous connaissez votre association locale dans votre ville, près de chez vous. Vous connaissez quelqu'un, discuter avec eux, demander ce dont ils ont besoin. Parfois, ça peut être juste aider à trier quelques cartons pour préparer les prochains couvre humanitaires. Parfois, ça peut être donner. Je sais pas, une heure par mois de votre temps pour donner un cours de français, justement parce qu'on ne sait pas la durée que ça va prendre encore, cette guerre, et qu'est-ce que les relations, comment on va continuer. Donc les gens, au moins, ils ont besoin de pouvoir de s'intégrer à ces moments. Et puis, faites la pression sur le gouvernement, justement, pour les sanctions, que ce soit il y a les sanctions européennes qui sont reconduites chaque 6 mois, il faut les votes unanimes des 27 pays, mais en fait il faut aller plus au-delà, parce que si on cherche la solution démocratique, donc il faut renforcer les sanctions, il faut saisir les biens des oligarques russes qui sont ici, hein, en Europe, et consacrer cet argent justement pour la défense.
Alors, Natalia, est-ce qu'on pourrait, en parlant d'aide, une façon d'aider aussi, c'est de participer aux événements qui vont être organisés autour de ce triste anniversaire du 24 février. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer à Nantes ?
Oui, bien sûr. C'est ce qui se passe mondialement. On s'organise pour les 23 février, toutes les communautés ukrainiennes et des personnes locaux qui le soutiennent. Tout le monde est bienvenu. Venez nous soutenir. Ça va être, c'est un vrai acte de sensibilisation. Et se renseigner aussi sur l'Ukraine. Ça va être à Nantes, ça va être la place royale. Toute la journée, les activités commencent à midi et finissent vers 20h du soir.
Dimanche, oui. 23 février, place Royale.
Et sinon, si vous n'êtes pas à Nantes, cherchez dans votre ville les 23 février vers 14h, il y aura un événement, c'est sûr, parce que c'est tout partout en France et c'est un événement mondial. Il y a tous les organismes internationaux des Ukrainiens qui s'est mis ensemble justement pour se renforcer l'un les autres. Et on s'est joint avec eux, avec Volia et plusieurs collectifs, toutes nos amis, toutes les associations amis également. Et on va faire aussi la représentation, on va parler surtout des 2013-2014, des débuts, on va expliquer davantage c'est quoi Euromaïdan, c'est quoi la révolution des dignités, d'où viennent les racines de cette guerre. On va parler des solidarités, démocratie, de l'Europe. Donc, et on va avoir aussi des chorales qui vont chanter. Donc il y a plusieurs choses qui sont préparées. Donc venez nous voir. Et puis les 24 février, également mondialement, venez à Place Royale à 17h45. Parce que mondialement, il y a Global Alarm. C'est une alerte aérienne qui va sonner dans toutes les villes à 18h pile, sur toutes les places centrales. C'est l'alerte aérienne qui, en Ukraine, on entend plusieurs fois par jour, la nuit. et parfois c'est les derniers sons qu'on entend.
D'accord, ben on y sera, hein, j'espère, le plus nombreux possible. Passons maintenant à la position de la Ligue des droits de l'homme par rapport à l'Ukraine. Fabienne, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, c'est pas facile de parler derrière Natalia comme ça. D'abord, je voulais les remercier, Natalia et François, de nous avoir illustré, expliqué ce conflit depuis Nantes, là. C'est important. La position de la LDH, elle est axée sur trois enjeux. D'abord, celui de la solidarité internationale, du droit international et de l'accueil des réfugiés. En gros, c'est ça le que ce soit à l'échelle nationale, la Ligue à l'échelle nationale et la LDH à l'échelle locale. François a parlé tout à l'heure du collectif dans lequel on s'est inscrit tout de suite dès les heures qui ont suivi l'agression russe sur l'Ukraine. Alors la solidarité, ça veut dire quoi ? J'avais envie de... C'est d'abord des prises de position qui sont exprimées et qui sont centrées sur l'exigence de libérer l'Ukraine et de soutenir la résistance. Ça, c'est des expressions qu'on a régulièrement au niveau de la LDH. Et localement, c'est tout le temps de façon collective et avec notamment l'association Volia et le collectif. Et puis, j'avais envie d'illustrer ça. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pression sur le politique ? Parce que quand on dit les actions de solidarité, ça peut rester des vœux pieux. Or, il y a deux dates là que j'avais envie de donner. Celle d'aujourd'hui, ce midi devant l'Assemblée nationale, il y a une coordination d'associations dont la LDH est membre et qui a appelé à une manifestation pour s'opposer aux coupes budgétaires qui sont dédiées à la solidarité internationale. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui est en train de prévoir jusqu'à 2 milliards de coupes budgétaires sur la solidarité internationale. C'est scandaleux. Comment est-ce qu'on peut dire que... Comment est-ce qu'on peut... Les experts internationaux, comment les opérateurs, les agences de l'État peuvent aujourd'hui appuyer la solidarité, être membre à part entière et être actif dans la solidarité internationale si on leur coupe les vivres. C'est pas possible, ça. Donc les aides qu'on veut, qu'on appuie, les aides financières, concrètement, comment on peut agir, on peut essayer d'agir. Et la deuxième chose, c'est la semaine dernière, mercredi dernier, le 22 janvier, la LDH, la FIDH et l'Observatoire des armements ont rédigé une lettre ouverte aux députés français pour réclamer un suivi démocratique des exportations des armes. Ça, c'est un petit peu... on se dit, mais parce qu'il y a dans le mouvement qui réclame la paix en Ukraine, il y a aussi des gens qui disent, ben non, il faut désarmer à tout prix. Mais en même temps, comment... François a été clair tout à l'heure, il a parlé d'une Russie archi-militarisée et une Ukraine qui n'est pas forte. Donc comment est-ce qu'on peut exiger le retrait des troupes russes sans condition si on ne laisse pas aux Ukrainiens l'opportunité de rééquilibrer les forces de combat. Ce n'est pas possible. Mais quelque part, il faut aussi surveiller tout ça, c'est-à-dire que ce soit transparent et que l'exportation des armes soit bien faite dans le respect du droit international, conformément à la Charte des Nations Unies, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est quoi le droit international ? C'est d'abord le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale. Mais il va falloir punir les crimes. Parce que si on dit qu'il y a des massacres, des tortures, des viols, des bombardements, ben c'est des crimes de guerre. Si on dit que ces massacres sont répétés et systématiques, et ben alors c'est des crimes contre l'humanité. Si on dit qu'on enlève et qu'on déporte plus de 20 000 enfants vers la Russie, alors on parle de crimes de génocide.
Un grand, grand merci à Natalia, François, Fabienne, Nathalie et Nathalem. Et d'ici le prochain plateau à 18h30 le mercredi 5 mars, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.